Vous êtes à l'écoute de l'émission Parole au présent, c'est Claude Julien qui vous parle. Mon invité ce soir, c'est Francine Robert, professeure à l'Institut pastoral des Dominicains. Francine, vous avez beaucoup parlé du personnage Jésus dans cet évangile. Maintenant, il y en a d'autres.
Oui. Pour quelqu'un qui raconte une histoire, c'est un très bon outil, les personnages. On se rend pas compte à quel point un narrateur peut produire beaucoup d'effets selon la manière dont il utilise les personnages. Et entre autres, dans tous les récits, pas seulement bibliques, dans tous les récits, les personnages sont pour le lecteur une sorte de plage projective. On peut s'identifier au personnage. C'est notre porte d'entrée. On est happé, je dirais, dans la dramatique du personnage. Je travaillais avec des catéchètes samedi dernier, le récit de la femme hémorragique, et on voyait comment Marc, contrairement à Matthieu, donne beaucoup de détails sur cette femme. Elle est malade depuis 12 ans. Elle se fait soigner par des médecins, mais ça donne rien. Elle a perdu tout son argent à se faire soigner. Comment ne serait-on pas pris par la dramatique de cette femme? Vous voyez?
On est en sympathie avec elle.
Absolument.
Quoi.
C'est écrit pour qu'on soit en sympathie avec elle, de sorte que lorsqu'elle est guérie, ce petit récit de salut qui advient à une femme morte depuis longtemps nous arrive à nous, d'une certaine manière, parce qu'on a pu s'identifier à cette femme. Et donc, ça devient bonne nouvelle de salut pour nous aussi. Vous voyez, je dirais, c'est la formule de Daniel Marguerat que j'emploie ici. Les récits offrent une surface poreuse. Les pores, un peu comme les pores de la peau, hein, par lesquels on peut entrer, ce sont les personnages. Ils nous offrent une certaine identité.
En somme, on se reconnaît dans les personnages.
Oui, on se reconnaît, ou alors on les trouve antipathiques, mais ça ne nous laisse pas neutre non plus. On n'aime pas les adversaires de Jésus. Mm-hmm. Par contre, tous les personnages, je crois bien, sont offerts au lecteur comme un miroir de ses propres tendances et de ses propres difficultés. De sorte que même les pharisiens, les scribes et les grands prêtres nous sont offerts pour qu'on se demande dans quelle zone de nous-mêmes on leur ressemble. Hein,
autrement dit, il peut y avoir des parties de notre personne qui ressemble à tel ou tel personnage.
Oui, et surtout de notre manière d'être croyant, de notre représentation de Dieu ou de nos attentes face au Messie, par exemple. Alors, c'est certain que dans les quatre évangiles, les disciples sont le groupe de personnages le plus important. Et chez Marc, ils sont travaillés de façon très originale. Quand je dis ils sont travaillés, ça veut dire que peu importe ce qu'ont vécu les disciples historiques, ils deviennent dans un évangile un outil du narrateur. Ça ne signifie pas qu'un évangéliste fait n'importe quoi, mais qu'il les utilise comme miroir des croyants. Les disciples du passé dont il parle sont en fait des miroirs des disciples de maintenant que sont les croyants auxquels il s'adresse. Par extension, nous aussi. Et on voit bien, hein, les disciples au chapitre 4 se font dire par Jésus, « À vous, le mystère du règne de Dieu a été donné, hein, mais à ceux-là qui sont dehors, tout arrive en parabole. » Et donc, on se dit, ils sont chanceux, hein, eux et nous. Hein, le mystère du règne de Dieu nous a été donné. Nous, on comprend. Sauf que ce beau statut de disciple, on se rend compte que ça leur advient au moment où ils ne comprennent pas les paraboles et qu'ils demandent à Jésus d'expliquer. Ce qui est déjà intéressant, parce que être un disciple, c'est aussi avoir envie de comprendre mieux. Donc, ils demandent des explications et Jésus leur dit, voyant leurs questions ou entendant leurs questions, « À vous, le mystère du règne de Dieu a été donné. Bravo. Nous ne sommes pas des gens du dehors. » Mais n'empêche, Jésus s'étonne aussi devant ses disciples qui ne comprennent pas les paraboles et il leur dit, « Mais si vous comprenez pas celles que je viens de raconter, comment allez-vous comprendre toutes les autres? » Et là, on se dit, « Oups, être disciple, ça ne règle pas tout et ça ne donne pas la science infuse. » Et en fait, dans l'évangile de Marc, plus ça va aller, moins les disciples vont comprendre. Hein, de sorte que, on arrive au chapitre 8, par exemple, juste avant la profession de foi de Pierre, dont j'ai parlé tantôt. Et là, Jésus les qualifie comme des gens qui ont des yeux, ne voient pas, qui ont des oreilles, mais n'entendent pas. C'était exactement comme ça qu'il qualifiait au chapitre 4, les gens du dehors. Donc, voici que les disciples sont devenus un peu comme les gens du dehors. Vous voyez, plus ça va, moins ils comprennent. On le voit avec c'est beau quand Pierre dit « tu es le Messie », hein, ce dont on parlait tout à l'heure. quand Jésus leur demande, qu'est-ce que vous dites, qui dites-vous que je suis?
Et c'est là que Pierre répond, tu es le Messie, le Christ.
Et puis là, on se dit, enfin, il a compris, ça fait 8 chapitres. Hein. Il y a pas de récit de l'enfance dans Marc, ça commence directement. Pierre, il est disciple depuis le premier chapitre, ça fait 8 chapitres avant de pouvoir dire, tu es le Messie, bravo. Hein. Il a enfin réussi sa première année, on pourrait dire, et il passe en deuxième année. Et le programme de deuxième année, c'est Jésus qui commence à leur enseigner sa passion, et du coup, Pierre...
Il refuse catégoriquement.
Absolument. Et donc, il se retrouve dans la position du disciple qui ne comprend pas, alors qu'on avait l'impression qu'il avait enfin compris. Donc, on voit, c'est pas pour les présenter comme stupides, là, hein, on se comprend bien. Marc, finalement, construit cette progression, je dirais, pour faire bien comprendre au lecteur qui se pense qualifié dès le début, parce que lui, le lecteur, il est chrétien. Et il sait que Jésus, c'est le Messie, le Fils de Dieu. C'est comme si Marc voulait l'amener à se dire, « Es-tu sûr que tu sais ce que tu dis quand tu dis ça? Es-tu sûr que tu comprends de quoi tu parles quand tu parles comme ça? » Donc, les disciples lui servent, d'une certaine manière, à nous interroger sur nos certitudes, voyez, et à nous amener à cheminer un petit peu plus loin. Donc, il représente le malentendu, l'incompréhension. C'est un évangile plein de paradoxes, hein? On voit à l'agonie, ils comprennent plus rien, ils savent pas quoi dire, à l'agonie à Gethsémani, ils peuvent même plus veiller, ils ne peuvent même plus supporter cette tension d'un Jésus qui ne correspond pas à leur attente, qui ressemble de moins en moins à ce qu'ils se sont imaginés qu'il était. Et donc, ils aiment mieux dormir que de veiller dans cette situation de tension face à un Jésus qui résiste à leur fantasme de toute puissance, hein, je dirais, et qui s'en va vers finalement vers la passion et la mort, alors que eux s'en vont vers la gloire, hein, vers le règne de Dieu. Enfin, ils ont trouvé leur Messie tout puissant. Probablement que vous vous rappelez, Claude, lorsque Jésus annonce par exemple sa passion pour la deuxième fois. Ses disciples qui se demandent lequel d'entre eux va être le plus grand. Jésus annonce qu'il va descendre et eux se demandent lequel va monter le plus haut parmi eux. Vous voyez, ils sont aux antipodes. Et la réponse de Jésus, il prend un enfant et il dit, ben non, le plus grand, c'est le plus petit. Et un demi-chapitre après, lorsque les gens amènent des enfants, les disciples disent, non, 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 pas d'enfants. Mais il vient de leur dire, vous voyez, le plus grand, c'est le plus petit. Jacques et Jean aussi qui veulent être assis dans la gloire de Jésus à sa droite et à sa gauche, encore après une annonce de la passion. Donc on voit qu'ils ont du mal finalement à s'ajuster. Plus ça va donc, moins ils vont comprendre. Et toute cette section-là de l'évangile va se terminer par la guérison d'un aveugle, Bartimée, qui va suivre Jésus sur le chemin vers la passion. Donc qui est l'image un peu des disciples qui ne voient pas clair, et plus ça avance, moins ils voient clair, ces gens. Et Bartimée sera guéri, et il suivra Jésus sur le chemin. C'est une expression technique, se mettre à la suite de Jésus, pour désigner le disciple.
Les disciples, c'est ça. Parce qu'on enseignait à l'époque, hein, le maître marchait, et on le suivait.
Oui, ça peut être comme ça. Parfois, le maître est assis, les disciples sont assis par terre, mais c'est vraiment se mettre à la suite, au niveau de l'enseignement. Donc, les disciples chez Marc, contrairement à chez Matthieu, hein, Matthieu, les disciples représentent au contraire la compréhension et le cheminement. Chez Marc, ils servent de miroir pour le croyant trop sûr de lui. Et quelles sont les figures données en exemple dans l'évangile de Marc, les personnages qui représentent la foi, le croyant? Pour le lecteur, Marc nous renvoie à des personnages secondaires qui sont de passage. Par exemple, la femme étrangère qui prie Jésus de guérir sa fille, la syrophénicienne. La femme hémorragique dont je parlais tout à l'heure, dont Jésus souligne la foi. Des aveugles.
Et tous ces personnages secondaires, là, ouais. Qu'est-ce que vous dites à propos de ces...
Ils sont des figures offertes au lecteur. Ils sont pas installés dans une relation stable, mais à chaque fois qu'il y a un de ces personnages-là qui arrive, on voit qu'il y a une rencontre forte et une intuition forte sur l'identité de Jésus, si on veut. La femme qui verse du parfum aussi sur sa tête, et dont Jésus dit « elle a anticipé mon ensevelissement ». Le centurion, qui dit de Jésus qu'il est le Fils de Dieu, Bartimée, qui marche sur la route à la suite de Jésus. Bon, ces personnages-là qui vivent un moment fort. Comment dire? Ce sont des gens dans la vie desquels la grâce a surgi. Vous voyez? La grâce, la bonne nouvelle. La rencontre de Jésus, pour eux, elle est grâce, elle est bonne nouvelle. Et donc, ils nous entraînent, ces gens, un petit peu sur la découverte de la bonne nouvelle dans notre vie, d'une certaine manière. Ils nous sont offerts comme des gens qui représentent peut-être des chemins intérieurs ou des possibles de notre expérience croyante que nous n'avons pas encore explorés.
Maintenant, Francine Robert, si on parlait des miracles, on a parlé des personnages, on a parlé du personnage de Jésus, aussi des personnages, des disciples, les personnages secondaires, et là, ben, pourquoi pas? Les miracles maintenant.
Oui. D'autant plus qu'il y en a beaucoup dans l'évangile de Marc. En fait, quand je dis il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup plus que dans les autres évangiles. Mais comme dans cet évangile, il y a peu de discours, la proportion occupée par les récits de miracles, de guérisons plus particulièrement, la proportion est plus forte donc. Et ce qui est assez curieux, Claude, c'est que tous les récits de guérison, à l'exception de deux, sont dans la première moitié de l'évangile. Donc, cette première moitié dont j'ai indiqué une frontière qui était la profession de foi de Pierre. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Demande Jésus. Et ensuite, vous qui dites-vous que je suis? C'est la fin de la première moitié. Et tous les récits de guérison sont avant ce texte, sauf deux, la guérison d'un enfant et la guérison de l'aveugle Bartimée.
Qui a sûrement une grande valeur symbolique.
Oui. Oui, et le fait que tous ces actes de guérison soient dans les huit premiers chapitres, ça contribue au rythme dont je parlais un peu plus tôt dans l'émission. Jésus est constamment sollicité par des malades, il est suivi par les foules. D'ailleurs, dans l'évangile de Marc, Jésus est bousculé par les foules, ce qui, j'en suis certaine, ne fait pas partie de l'imagerie mentale de la plupart des auditeurs. En fait, je pense que spontanément, les gens se représentent Jésus avec toujours au moins un mètre d'espace autour de lui. On bouscule pas le Fils de Dieu. Hein? Mais dans l'évangile de Marc, on bouscule Jésus.
Oui, c'est ça. Il est vraiment touché, oui. Bousculé.
Oui, et entre autres, donc, par des gens qui ont des espoirs, mettent leur espoir en lui. Et c'est lié à sa popularité, entre autres, de guérisseur. Ce sont des actes, bon, j'aborderai pas la question de l'historicité comme telle des guérisons, on aura l'occasion de le faire.
Oui, au cours de l'année, effectivement, oui. Hein, parce qu'on va passer l'année avec notre évangéliste, alors on aura des guérisons à analyser ensemble.
Oui, mais c'est certain que ça apparaissait comme des actes forts, hein, puissants. Le mot d'ailleurs que l'on traduit dans les évangiles par miracle, c'est dynamis, hein, c'est un acte de force, c'est un dynamisme.
Un dynamisme.
Qui sort de
Jésus. En grec, vous avez raison, c'est dynamis, hein, c'est quelque chose qui émane de... Ce qu'on pourrait dire, une force quoi, qui émane de lui.
Oui, c'est ça, une force qui émane de lui, une force de bien, une force qui fait du bien, pourrait-on dire. C'est clair que ces actes de bienfait qui frappent l'imagination sont des signes que le règne de Dieu est une bonne chose pour les gens, que le règne de Dieu est une bonne nouvelle. On peut pas se contenter de dire aux gens, vous savez, Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu sauve, c'est une bonne nouvelle. Ça doit être manifesté concrètement, que ce soit en aidant les pauvres, que ce soit en fréquentant les exclus, que ce soit en guérissant les malades. C'est ça la pratique de Jésus, hein. C'est de rendre manifeste, entre autres par les guérisons, de rendre manifeste que c'est une bonne nouvelle qui atteint jusqu'au corps.
Donc, c'est ça, c'est pas un maître de sagesse. Hein.
C'est quelqu'un qui
fait. Toute l'importance du faire, d'ailleurs, dans la religion juive.
Hein, absolument.
L'agir, là. Il
concrétise.
On va dire qu'il transforme tout sur son passage, ou pas, peut-être pas tout, mais...
Non, malheureusement, pas
mais
tout.
Il transforme beaucoup de personnes,
beaucoup,
quand même,
tout à fait.
Ces personnages.
Oui,
là.
Et ça concrétise, finalement, la force du règne de Dieu à l'œuvre. C'est sûr que ça nourrit l'espérance des gens, puisque c'est une force qui libère, finalement, et ça devient, on pourrait dire, la lutte du règne de Dieu contre toutes les forces d'aliénation, qu'elles soient physiques ou morales ou religieuses. C'est ça, la bonne nouvelle. Donc, chez Marc, je pense que le choix du genre littéraire à récit veut bien manifester que proclamer la bonne nouvelle du salut, c'est inscrire des événements de salut dans la vie des gens, quelle que soit la manière. Les récits de miracles lui servent à illustrer cela. Par contre, ça implique un certain danger puisque on est proche de la pensée magique avec les miracles et les guérisons, de sorte que on finit par avoir l'impression que le règne va advenir, le règne de Dieu, par des actes super puissants, finalement. D'où, dès que Jésus entend Pierre dire « Tu es le Messie », son souci à Jésus, c'est de dire « Oui, mais attention, ce ne sera pas un Messie tout puissant. J'ai une force qui guérit, tant mieux. J'ai pas une force qui écrase les adversaires. »
Parce qu'après la profession de foi de Pierre, tout de suite, Jésus va dire « Voici que nous montons à Jérusalem et que le Fils de l'homme sera arrêté et mis à mort. »
Et mis à mort, c'est ça. Et rejeté, donc, cette annonce de la Passion vient comme casser, ou en tout cas, à tout le moins perturber, l'image de force qui s'est développée chez le lecteur comme chez les disciples.
Dans les huit premiers chapitres.
Dans les huit premiers chapitres, où il y a beaucoup de récits de guérison. Et là, on tombe dans la tentation de dire... Ben voilà, c'est comme ça que le règne de Dieu arrive. Dieu parle, puis ça marche. Comme dans le récit de création, que la lumière soit et la lumière fut. C'est la toute-puissance. C'est un petit peu, je dirais, comme dans notre première lecture de ce dimanche, que vous nous lisiez tout à l'heure dans Isaïe. Les gens s'adressent à Dieu. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. Eh bien, il est descendu et puis les montagnes n'ont pas fondu, vous voyez. Donc, c'est l'ambivalence ou le paradoxe des récits de miracles, de guérisons, de montrer la force du règne de Dieu à l'œuvre, mais comment, en même temps, cette force n'est pas une force qui aliène la liberté des gens, n'est pas une force qui contraint au croire, n'est pas une force qui garantit une perception juste de Jésus et du règne de Dieu. Simplement une force de libération. Et si on libère les gens, et si on les guérit, ou si on manifeste un Dieu qui aime, c'est pas pour les contraindre ensuite à croire en ce Dieu-là. Il y aurait comme une contradiction, sinon, dans les termes. Alors, dans la cohérence du livre de Marc, le règne de Dieu, il est manifesté tout autant en Jésus crucifié. C'est-à-dire en Jésus non puissant. On pourrait dire en Jésus qui est livré à la force de ses adversaires et qui renonce à la puissance qu'il pourrait peut-être avoir, ou en tout cas en Jésus crucifié qui témoigne d'un Dieu qui lui-même n'a pas envie de jouer la carte de la toute-puissance. Donc, il y a à la fois les miracles et l'antimiracle, pourrait-on dire, les miracles et les guérisons qui sauvent les gens, mais l'antimiracle, qui est que Jésus ne peut pas se sauver par cette puissance-là. Marc nous entraîne finalement à la suite d'un Jésus qui va être acculé à se faire tuer, qui va être abandonné de tous et d'abord de ses disciples qui sont incapables de le suivre sur ce chemin-là parce qu'ils n'y comprennent plus rien. Alors, le paradoxe du règne de Dieu, hein, c'est ça. On le voit dans les miracles et on n'a aucun problème à le voir là. Comment voir en même temps que le règne de Dieu, c'est le renoncement de Dieu à la toute-puissance? Ça, c'est plus difficile. C'est ce que j'appelle le paradoxe, je dirais, de l'évangile de Marc. Ce Dieu qui consent complètement à notre liberté, et si ça nous amène à le refuser, eh bien, ça sera ça. Et qui pourra pardonner par-dessus ça. Et je dirais que on a parlé des cieux déchirés dans Isaïe, qui vont revenir d'ailleurs au baptême de Jésus dans l'évangile de Marc, donc quelque part en janvier.
Ouais. Oui.
Et l'autre objet qui se déchire, n'est-ce pas, dans l'évangile de Marc...
C'est le fameux rideau.
C'est le fameux rideau
du temple.
Donc, le voile derrière lequel Dieu est protégé dans le Saint des Saints, il est à l'abri des gaffes humaines, pourrait-on dire. C'est ça le sens du sacré, hein, de bien baliser le respect de la majesté divine.
C'est ça, bien protéger Dieu.
Bien protéger Dieu. Et ce voile-là se déchire, et c'est au moment de la mort de Jésus, comme pour montrer que en Jésus crucifié, ce qui est révélé, c'est un Dieu qui consent à être vulnérable, finalement. Ça aussi, faudra commenter ça probablement à l'occasion
de la semaine sainte. Oui. Oh oui, sûrement qu'on aura l'occasion d'approfondir tout ce mystère finalement. Hein,
ce mystère d'un Dieu dont on pourrait dire que l'amour l'amène à renoncer à la toute puissance. Hein. Si je cite un théologien jésuite, le père Lamarche. Un Dieu que l'amour rend faible, sans défense, vulnérable, ça nous fait drôle, on n'associe pas ces qualificatifs-là avec Dieu. Faible, sans défense, vulnérable, c'est tout le contraire de la toute-puissance. Hein. C'est ce Dieu-là qui est finalement révélé en Jésus, de sorte que on peut dire que l'évangile de Marc, qui travaille beaucoup dans cette direction-là, beaucoup plus que Matthieu, Luc et Jean, qui essaie d'amener le lecteur là, présente vraiment une théologie de la croix. Son évangile, un peu comme Paul aussi, présente, Paul n'est pas un évangile, mais ils sont les deux grands auteurs du Nouveau Testament, à présenter vraiment une théologie de la croix plutôt qu'une théologie de la résurrection. C'est-à-dire, la résurrection confirme, mais Dieu se révèle dans la croix. Et il confirme cette révélation étonnante en ressuscitant Jésus. Pour Paul qui nous dit la croix, c'est la folie de Dieu. Hein. Mais c'est cette folie-là, c'est dans cette folie-là que Dieu nous est révélé, et particulièrement dans l'évangile de Marc.
Vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut de Pastoral. Francine, donc, qui donnera un cours à compter de janvier prochain sur cet évangile. Chers amis qui nous écoutez, je reprends le conseil que Francine donnait en début d'émission, prendre l'évangile de Marc et de le lire là.
D'une traite.
C'est le mot qui me venait, oui, justement, tout d'une traite là, parce que c'est un évangile qui est petit, et pour en saisir le rythme et puis entrer dans cette œuvre là.
Se laisser entraîner, je dirais, derrière le Jésus de l'évangile de Marc.
Voilà. Alors, c'est Claude Julien qui vous parle, qui vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit.